C'est une plateforme inédite en France, hein. C'est la seule structure qui existe dans ce format-là. C'est une plateforme de promotion de la santé sous forme d'une vraie maison avec 11 pièces pour contextualiser les messages de prévention et plutôt de promotion de la santé.
La Villa Santé est une plateforme de promotion de la santé inédite en France. Elle se matérialise sous forme d'une vraie maison, avec 11 pièces pour contextualiser les messages de prévention et de protection de la santé. Marion Albouy, chef du service santé publique à Poitiers, nous ouvre les portes à l'occasion de la Journée mondiale de la santé le 7 avril. La Villa Santé, une maison pas comme les autres, un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Je suis le docteur Albouy, responsable du service de santé publique dans lequel il y a la plateforme Villa Santé. Alors la Villa Santé, c'est une plateforme inédite en France, hein. C'est la seule structure qui existe dans ce format-là. C'est une plateforme de promotion de la santé sous forme d'une vraie maison avec 11 pièces pour contextualiser les messages de prévention et plutôt de promotion de la santé. C'est-à-dire qu'on agit sur l'ensemble des déterminants de santé qui sont à la fois nos comportements mais également notre réseau social et puis notre environnement au sens environnement de vie, milieu de vie. Et donc dans cette plateforme, on développe un accompagnement des personnes, qu'elles soient malades ou non, pour apprendre à créer leur santé, à développer leur santé, avec des conseils, des astuces qui veillent à les motiver, à redonner l'élan vital, d'où le nom « Vie la santé », pour que chacun prenne en main sa santé. Dans chaque pièce, il y a une thématique précise. Dans le salon, par exemple, on va discuter autour de la maladie ou de son vécu ou de différents sujets. Dans la cuisine, on va parler plutôt alimentation. Dans la salle de bain, on va discuter autour des cosmétiques ou des produits de soins corporels, ou encore on va apprendre à utiliser les espaces avec peut-être une petite forme de handicap. Et puis, autre exemple, dans le jardin, on va apprendre à jardiner pour développer son jardin intérieur. Donc c'est le champ de la santé mentale, tout aussi bien que une activité de vie quotidienne qui permet aussi de développer l'amour de soi, l'estime de soi, pour après mieux vivre son parcours de santé, son parcours de vie. Le projet est né il y a une quinzaine d'années déjà maintenant, à l'idée originale du professeur Mijot, qui était l'ancien chef de service avant moi, et qui a proposé à l'ancien directeur général cette idée un peu complètement folle à l'époque, et qui coïncidait pleinement avec la réorientation d'une politique de santé vers plus de prévention, plus de promotion de la santé. Et voilà, et se sont enchaînées une série d'opportunités qui ont fait qu'on a été soutenu par des collectivités territoriales, par le CHU, par l'ARS, pour développer cette structure et la faire vivre depuis 5 ans. C'est identifié par certaines personnes, celles qui s'intéressent à l'approche globale de la santé, mais c'est vrai que c'est tellement original que parfois on restreint la vision qu'on a de cette structure et on n'imagine pas du tout la globalité de l'offre en termes de l'alimentation, d'activité physique, de santé mentale, de santé sexuelle, de santé environnementale qui est notre priorité, ou de santé numérique. Voilà, c'est des sujets vastes qui déterminent notre santé, et c'est loin du soin et de la maladie. Et souvent, dans un hôpital notamment, on est plutôt tourné autour de la maladie qu'autour des déterminants de santé. On est à l'hôpital, mais avec des codes différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peinture blanche au mur, il n'y a pas de blouse blanche portée par les personnels. On est vraiment un peu comme à la maison pour rendre les choses un peu plus fluides et agréables. Et on s'est inspiré du salutogenic design pour se dire qu'en fait, nos environnements de vie créent aussi notre santé. Si on est en lien avec la nature, si on est dans un endroit avec des couleurs qui nous apaisent, eh bien déjà on sera mieux pour prendre en main, réfléchir et pour nos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée porte ouverte parce que c'est la Journée mondiale de la santé. Alors nous sommes habituellement sur plein d'autres thèmes. Hein. Chaque jour, il y a une journée mondiale sur différentes pathologies ou différents thèmes de santé. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était le meilleur jour pour célébrer tout ça et pour ouvrir la structure à différents publics qui ne connaissent pas cette structure, qui voient un bâtiment rouge et blanc, mais qui ne savent pas forcément ce qu'on y fait dedans, parce que c'est vrai que c'est très original. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir à la communauté du CHU, mais également à tout public, cette structure pour qu'ils viennent rencontrer nos professionnels et découvrir ce qu'on y fait.
Je suis Ludivine Hénoux, je suis infirmière d'éducation thérapeutique et je suis plutôt sur le programme maladies du sang adultes et enfants, donc les maladies rares comme l'hémophilie, la drépanocytose ou les déficits immunitaires primitifs. Et je coordonne également un parcours post-traitement du cancer.
Alors, qu'est-ce qu'un bilan éducatif partagé ? On fait le point avec le patient sur ce qui fait sa vie au quotidien et ce sur quoi il veut agir. Donc, on lui demande d'identifier 22 items et sur ces 22 items, ce qui est problème aujourd'hui pour cette personne-là ou ce qui n'est pas un problème. Elle fait du coup un premier tri sur ce qui est plutôt ressource pour elle et ce qui est plutôt problématique. Sachant que les ressources, nous, on va pouvoir les identifier ainsi et se dire qu'on va pouvoir aussi les mettre en avant à un moment donné pour cette personne-là. Dans un deuxième temps, on lui demande de faire un autre tri sur ses problèmes. Ça lui permet de classer ses problèmes en très important, important ou peu important. Ça permet également de faire les liens. Ensuite, on reprend en effet toutes les cartes qui sont plutôt problématique, et on demande à la personne de refaire un autre classement sur est-ce que j'ai besoin d'aide par rapport à ces problèmes-là, besoin d'aide supplémentaire ou pas besoin d'aide supplémentaire. Et du coup, on va pouvoir l'orienter vers les ateliers en lien, à la fin, si vous voulez, de ce classement, on formule des objectifs, hein, et les objectifs, c'est les objectifs de la personne, c'est pas les objectifs du soignant. C'est vraiment mes besoins, mes objectifs. Et ensuite, on propose les ateliers en lien. Donc ça, c'est un entretien d'une heure et demie. La personne repart avec un carnet de bord dans lequel elle a le trombinoscope, hein, du coup, avec toutes les personnes qui travaillent avec la Ville la Santé et leurs fonctions. Puis ensuite, on l'a un peu construit comme un chemin, une randonnée, donc elle a un itinéraire. Et puis là, on a différentes étapes. Et à chaque étape, elle peut noter le nom de l'atelier, ce qu'elle vient chercher et avec quoi elle repart. Et ensuite, généralement, on les rencontre au bout de quelques ateliers pour refaire un point, voir où on en est avec les objectifs, est-ce qu'ils ont atteint, est-ce qu'on a besoin d'approfondir les connaissances et les ateliers, et éventuellement de remettre d'autres objectifs. Et puis, et pour continuer le parcours. Et à la fin, on a un entretien de fin de parcours, on refait un ELADEV, donc ce système-là, et on peut mettre en parallèle hein, les deux pour dire que apprendre, mais en tout cas les outils qu'elle a pu mettre dans son sac à dos pour pouvoir s'en servir au quotidien. C'est un premier bilan qu'on fait ici pour pouvoir ensuite diriger vers les ateliers en lien avec les objectifs du patient. C'est pas « oh tiens, ça me plaît comme atelier, je vais faire ça ». Non, c'est vraiment en lien avec un besoin. L'idée, c'est vraiment de cibler les objectifs et on formule pas plus de 3 objectifs. Après, c'est à nous, dans la discussion aussi, de pouvoir diriger et de pouvoir accompagner la réflexion plutôt pour que la personne puisse mettre en avant vraiment les items les plus importants pour elle.
Moi, c'est Sandra Ruiz, psychologue. Là, on est dans les boudoirs. C'est aujourd'hui la salle qui est dédiée à la santé mentale. C'est un parcours dans lequel on va commencer par identifier nos émotions. Et donc, dans cet atelier, on va déjà commencer à identifier ce que c'est une émotion. Mais déjà, on commence par nos sensations. Comment ça se passe au niveau de notre corps, les émotions, les nœuds dans la gorge, les mâchoires crispées. Là, on a des exemples un petit peu de tout ce qui peut se passer dans notre corps. Et en fait, c'est très important de partir de là parce que des fois, les corps, c'est ce qui va nous renseigner le plus. Comment on se sent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ensuite faire les liens avec nos émotions. Donc, si je suis crispé, tendu, comment ça se traduit sous forme d'émotions. Forte, ce que je suis, je me sens forte, impatiente, dégoûtée, sous pression. Et ensuite, je vais faire les liens avec mes besoins. Donc si je suis triste, dégoûtée, fâchée, quels sont mes besoins? Donc peut-être que j'ai besoin d'équilibre, d'affirmation de soi, d'attention, de centrage. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un lien avec toutes ces choses-là. Et puis, une fois qu'on a identifié un petit peu nos émotions, nos besoins, on va pouvoir faire les liens avec l'estime de soi. qu'est-ce que c'est l'estime de soi, comment elle se construit dès la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte, et voir un petit peu comment les, certains événements de vie peuvent briser, venir impacter l'estime de soi. Et donc là, on travaille aussi avec des cartes à des valeurs. Donc, c'est vrai qu'ici, à la Villa Santé, on parle beaucoup de, en termes d'objectifs. Hein. Moi, je préfère parler des valeurs parce que les objectifs, une fois qu'ils sont atteints, peut-être que voilà, on n'a pas d'autre chose. Les valeurs, par contre, hein, une fois, enfin, on peut à chaque fois les contacter. Les contacter pour se relier à eux, pour être en cohérence avec eux et puis continuer à aller dans ces sens-là. Et donc, il y a ce lien émotion, estime de soi, où on va pouvoir aussi faire les liens avec les capitales psychologiques, nos ressources, donc l'optimisme, un sentiment d'auto-efficacité, espoir, résilience, pour finalement mieux nous connaître et mieux vivre avec nous, faire le lien santé physique, santé mentale. La roue des émotions, c'est un peu ça ce que vous avez vu là, sauf que là, ça se présente sous forme de roue. Et ça, c'est des outils aussi que je donne aux gens pour travailler entre les séances. Donc là, on va travailler sur comment communiquer nos émotions pour continuer dans ce sens-là, voir comment exprimer, dire nos émotions, dire nos besoins, proposer des compromis. Et donc tout ça c'est des fiches, c'est des outils que je mets à disposition des gens. Et puis ensuite de faire les liens avec mes autres collègues hein, qui sont là.
Je suis Stéphanie Tricouard, donc je suis une des infirmières de Villa Santé. Moi je m'occupe plus particulièrement des programmes d'éducation thérapeutique qui concernent le service de pneumologie. Donc un qui concerne les apnées du sommeil et un autre qui concerne les maladies respiratoires de l'adulte. Asthme, BPCO, Covid long, hypertension artérielle pulmonaire. Nous avons aménagé la salle de bain en chambre pour parler du sommeil. Parce qu'il existe à Villa Santé un atelier sur le sommeil qui permet d'être transversal. Et on sait aussi que le sommeil intervient aussi dans nos difficultés quotidiennes et sur notre santé du quotidien. L'idée, c'est plutôt de présenter une chambre des erreurs. Les gens doivent plutôt parler des... quelles sont pour eux les erreurs que l'on peut voir dans cette pièce et pour aider en tout cas à l'endormissement. Les explications aussi sont collées au mur pour expliquer le mécanisme du sommeil et parler un petit peu de ces périodes d'endormissement qui sont compliquées parfois ou des réveils nocturnes et ce qui se passe pendant la nuit, justement pour amener les personnes à réfléchir elles-mêmes sur leur pratique quotidienne et aider un petit peu à ce qu'elles changent aussi des habitudes pour pouvoir aider à un meilleur sommeil et avoir une meilleure santé. Grâce à un meilleur sommeil, souvent les gens, s'ils dorment mieux, ils bougent plus, ils vont se sentir mieux, ils vont s'alimenter mieux. À travers le sommeil, on touche d'autres thèmes qui permettent aussi de renvoyer vers d'autres ateliers. Des ateliers bien-être, type musicaire. Alors, je ne sais pas si on entend, mais il y a un petit peu de musicothérapie derrière. Ou méditation pleine conscience, ou encore cohérence cardiaque, on utilise la respiration pour amener un moment de bien-être, et puis tous les autres ateliers effectivement qui participent à Villa Santé, qui sont effectués dans la structure.
Anne-Sophie Gourgue, je suis infirmière en santé environnementale à la Villa Santé au CHU de Poitiers. Et donc je propose des ateliers de prévention, promotion de santé sur les polluants de l'air intérieur. C'est ce qui est illustré dans cette chambre d'enfant pour pouvoir sensibiliser les gens à la pollution de l'air intérieur et pouvoir leur apprendre à faire des changements de comportement, d'achat de produits ou d'habitudes pour respirer un air plus sain chez eux. Par exemple, on peut voir dans cette chambre d'enfant qu'il y a beaucoup de peluches qui ont été mises dans le lit de bébé, ce qui favorise la présence à la fois des traitements qui sont mis sur ces peluches quand elles sont commercialisées, et donc qui peuvent potentiellement être irritantes pour les voies respiratoires d'un nouveau-né, et puis également l'accumulation d'acariens qui peut être gênante si l'enfant a un terrain allergique. Il y a aussi des pesticides, des anti-moustiques chimiques qui ne sont pas souhaitables dans une chambre de nouveau-né. Il y a également des produits d'entretien assez corrosifs, comme la Javel, ou des lessives qui ne sont pas du tout labellisées et donc qui peuvent contenir des produits très allergisants, voire perturbateurs endocriniens. Le message, c'est que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et donc, le premier message, c'est l'aération, parce que ça, c'est le plus économique et le plus facile à mettre en œuvre, c'est d'aérer 2 fois par jour sa maison au moins 10 minutes. Donc ça, c'est déjà le premier message. Et puis après, c'est d'essayer d'éviter d'accumuler les choses qui polluent. Donc tout ce qui est parfum d'ambiance, on insiste aussi beaucoup là-dessus parce que c'est des choses qui sont très prisées du public mais qui finalement sont jamais assainissantes mais toujours polluantes. Alors ça c'est l'atelier sur la qualité de l'air, mais il y a également un atelier sur les cosmétiques où on peut apprendre à décrypter une étiquette de cosmétique, les différents labels, lire une composition et puis aussi fabriquer. Fabriquer un déodorant, fabriquer un dentifrice pour voir qu'il y a certains produits qu'on peut facilement... fabriqué pour moins cher que de l'acheter, et c'est également le cas pour les produits d'entretien. On fabrique en fin d'atelier une lessive ou une crème à récurer ou un nettoyant multi-usage. Ça a multiples avantages parce que c'est pas polluant, on réutilise un contenant, donc on n'en rachète pas, on rachète pas du plastique qu'on remet dans la circulation, et économiquement c'est intéressant. Donc ça, sur le levier économique, on arrive quand même à aussi convaincre les gens au-delà de ce qui est polluant.
Thomas Abascal, l'enseignant en activité physique adaptée à la Villa Santé. L'activité physique adaptée, ici on accueille tous les patients, on rencontre les patients tout venant, tout public, et ils intègrent un programme d'activité physique adaptée où ils vont faire plusieurs séances, donc des séances de gym douce, de gym tonique, des séances de souplesse. On fait aussi une évaluation de l'équilibre avec des séances d'équilibre. Et après, sur l'extérieur, on va faire des séances de marche adaptée, marche douce, marche active, et aussi des initiations à la marche nordique. Aussi, on a un matériel qui vient de Revlim, qui est le vélo cognitif, qui permet de faire de la double tâche, donc pédaler, tout en travaillant sur sa mémoire et sur ses fonctions exécutives. Donc c'est un matériel plutôt intéressant dès qu'il y a des troubles mnésiques, voilà, pour les personnes par exemple qui ont fait des AVC. Alors les personnes qui viennent ici, soit elles ont été orientées dans leur programme, ou alors elles viennent d'elles-mêmes, pour déjà découvrir leurs capacités, savoir ce qu'est l'activité physique adaptée. Et puis généralement, elles ont aussi l'intention de reprendre une activité physique régulière. L'objectif, c'est de leur remettre le pied à l'étrier et après de les orienter vers d'autres intervenants et d'autres professionnels en activité physique adaptée à l'extérieur de nos murs. On travaille avec Sport Santé 86, qui est la plateforme de sport sur ordonnance. Vous allez voir votre médecin, il vous prescrit, il vous fait une prescription médicale d'activité physique adaptée. Et du coup, après, il vous oriente vers des professionnels et des associations compétentes à ce sujet.
Julien Robin, interne en pharmacie hospitalière. Ici, vous êtes au niveau de la bibliothèque, donc, où on organise les ateliers du médicament. Il y a 3 types d'ateliers qui sont organisés. Le premier, c'est décodons les médicaments, donc c'est plutôt sur les caractéristiques d'un médicament, et on a différents outils pour ça, où on demande aux patients de trier les différentes boîtes. Est-ce que c'est un médicament ou est-ce que ce n'est pas un médicament ? On a également un jeu sur les pictogrammes. Est-ce que c'est les pictogrammes qu'on retrouve sur la boîte d'un médicament ou non ? Ensuite, on a le deuxième atelier qui porte sur les formes et les voies d'administration d'un médicament, avec également là aussi un outil où on demande aux patients de remettre dans l'ordre les différentes étapes d'administration d'un médicament, donc par exemple collyre ou flacon pressurisé inhalateur. Et puis le troisième atelier porte plutôt sur l'automédication, donc comment gérer son automédication, comment gérer son armoire à pharmacie, etc., etc. Et donc là aussi, on a quelques outils pédagogiques que l'on peut utiliser. Par exemple, là, on a les phrases clés des publicités que l'on retrouve pour les médicaments. Donc il y a 3 phrases clés à remettre dans l'ordre. Et puis on essaye de rediscuter du message que porte chacune de ces phrases. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ateliers du médicament sont ouverts à tous et gratuit, et pas besoin d'ordonnance pour y participer, et c'est aussi un moyen d'échanger entre les différents participants.
Alors moi je suis Christina, je suis une interne en médecine générale et je suis actuellement en stage au CEGID, donc au Centre des dépistages des maladies sexuellement transmissibles et la prévention de la santé sexuelle. Donc c'est une petite institution qui s'ancre dans la santé publique, qui s'ancre bien, qui a tout son intérêt justement vu que c'est la prévention et la promotion. Initialement et majoritairement, notre mission c'est justement sur les dépistages, donc on accueille tout type de personnes.
Moi c'est Alexandra, je suis infirmière en éducation thérapeutique au sein de la Villa Santé et j'interviens sur le programme des maladies cardiovasculaires. plus précisément sur la maladie coronarienne. Je présente le physiomécanisme physiologique du cœur, donc un petit rappel anatomique, comment le cœur fonctionne, comment il est composé. Et ensuite, on voit le versant côté physiopathologique, donc c'est-à-dire une plaque d'athérome qui se trouve dans une artère coronarienne, qui vient boucher celle-ci, et donc du coup, comment on la traite. Donc c'est vraiment tout ce qui est, c'est très imagé, on a soit des supports avec des images, soit un support avec une application tablette, que les patients aiment beaucoup parce qu'ils arrivent bien à visualiser ce qu'on leur explique en général. Donc une fois qu'on a expliqué tout le mécanisme physiopathologique, ce qu'on a été faire, donc ce que le médecin a été faire en général, c'est une coronarographie par le biais de laquelle on a été poser un stent. Après on axe sur le traitement, parce que c'est les patients qui vont avoir un traitement du coup bien spécifique et ils ont besoin de savoir à quoi correspond chaque traitement. Chaque traitement a un rôle particulier, donc il est important de le savoir. Une fois qu'on a vu les médicaments, on axe aussi sur les facteurs de risque cardiovasculaire, parce que c'est important de pouvoir les contrôler et de les modifier, de les améliorer pour éviter une récidive de formation de plaques d'athérome. C'est quelque chose qui se forme entre deux parois d'une artère. Les artères, il n'y en a pas que dans le cœur, il y en a partout en plus. Parfois, c'est aussi une prise de conscience pour certains patients, afin de pouvoir travailler certaines choses dont ils n'avaient pas évalué que c'était un facteur de risque. Parfois, le sommeil ou l'activité physique. En fait, ça dépend vraiment du patient qu'on a en face de soi. Donc, sur cette frise, c'est de 0 à 10. 0, c'est je n'ai pas ce facteur de risque cardiovasculaire-là. Et 10, c'est il est présent, donc il va falloir un petit peu que je travaille dessus afin de pouvoir modifier ça. Donc, quand on pose sur la frise la petite étiquette, par exemple, stress, je suis un peu stressée, je me situe entre 5 et 10, et parfois les gens, avec le recul, ils se disent « je suis un peu haut, en fait, je crois que je suis stressée et que je pourrais peut-être faire un travail dessus. » Ça peut être pareil pour chaque entité. Hein. On travaille sur 8 facteurs de risque cardiovasculaire, le stress, le sommeil, l'activité physique, l'obésité abdominale, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, et le cholestérol. Alors, on va pas dire les solutions, on va dire plutôt qu'on apporte... parce qu'on a toujours des idées reçues, il y a des choses qu'on fait bien, et il y a des choses... Alors, faut pas dire qu'on fait pas bien, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc, on peut tendre vers des ateliers pour, par exemple, gérer la qualité de son sommeil et voir ce qu'on peut mettre en place pour nous aider. Sur le sommeil, on a un atelier qui s'appelle « Tendre vers un mieux sommeil », donc on donne des astuces pour... favoriser un endormissement serein, on donne quelques conseils. Sur le stress, on va travailler sur de la méditation en pleine conscience, sur de la cohérence cardiaque aussi. Prendre vraiment du temps, s'accorder du temps dans une journée pour souffler et gérer son stress.
Donc bonjour, je suis une infirmière à la Villa Santé, donc référente des programmes de maladies respiratoires, donc sur l'asthme au niveau des enfants, au niveau de la pédiatrie. On reçoit donc les enfants et leurs parents et on les accompagne à mieux vivre avec l'asthme. Donc il y a plusieurs types d'asthme. Il y a l'asthme viro-induit, donc ça c'est plus la petite enfance. Il y a l'asthme aussi allergique et puis il y a l'asthme après d'effort. Donc souvent on reçoit les enfants et leurs parents sur un atelier où on explique la maladie, ce qu'est l'asthme, et sur le rôle des médicaments. Et à ce moment-là aussi, on voit un peu la gestuelle, la technique de comment prendre son traitement et bien le prendre, parce que les techniques ne sont pas si simples que ça, surtout pour des petits-enfants. À ce moment-là aussi, on assiste beaucoup sur le rôle du lavage de nez, qui est quelque chose qui n'est pas facile à faire, qui est mal accepté par les enfants et donc difficile aussi à faire pour les parents. D'ailleurs, on a développé un nouvel atelier donc sur le lavage de nez pour les enfants un peu plus ludique. Ensuite, sur l'asthme allergique, on a un atelier pour les adolescents où on fait une course d'orientation pour qu'ils reconnaissent un peu leurs allergènes, pour qu'ils reconnaissent le type de plantes auxquelles ils sont allergiques. Ensuite, on va avoir des ateliers sur la gestion de la crise d'asthme où là, on va travailler sur les facteurs déclenchants. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on peut faire une crise d'asthme? et on va essayer d'agir dessus. Donc on revient vraiment sur voilà, les virus, le temps, l'été, les allergies, tous les types d'allergies, le stress, l'environnement. Et après, ça va être sur les signes. Quels sont nos signes d'asthme et à quel moment on va prendre son traitement ? Quel moment on va pouvoir prendre sa ventoline, son bronchodilatateur pour éviter justement la crise d'asthme ? Alors au public, oui, je leur montre vraiment les différents dispositifs. Différents dispositifs, donc les chambres d'inhalation, il y a aussi les différents dispositifs au niveau des traitements, parce qu'on va avoir des dispositifs qui vont être plus des auto-haleurs, vers des discus, des sprays, des turbuhaleurs, donc c'est vrai qu'il existe plein de choses, plein de techniques différentes. Après, j'ai des bronches en 3D. Donc là, c'est vraiment très utile pour vraiment visualiser ce qu'est la maladie asthmatique. Donc on va avoir une bronche saine. Après, on va avoir une bronche justement où on voit l'inflammation et une bronche en crise. Donc on voit bien que le passage de l'air est beaucoup plus difficile. Donc là, c'est vrai que ça parle bien. Et là, souvent les gens comprennent. Après, c'est vrai que j'ai une affiche aussi sur le rôle des traitements. Donc il y a des traitements qui vont justement diminuer l'inflammation et d'autres traitements qui vont être plutôt bronchodilatateurs, donc qui vont dilater les bronches pour laisser le passage de l'air. Voilà. Après, j'ai des outils donc plus sur les signes de crise. Donc on voit vraiment voilà, les signes, ça va être l'éternuement, le nez qui coule, la toux, hein, l'essoufflement. Donc voilà, on essaye de repérer ces signes, de les classer pour voir l'ordre d'apparition et puis voir à quel moment on agit. Après, j'ai vraiment des cartes aussi sur les facteurs déclenchants. Donc c'est vrai qu'on va avoir des cartes sur bah, justement les pollens. Donc là, tous les allergies, ça va être les acariens, poils de chat, poils de chien, la moisissure. Après, on va avoir le tabac, le sport, la pollution atmosphérique, les polluants intérieurs, les produits ménagers, on va avoir le rhume, la météo, le stress, je ne sais plus si je l'ai dit, et puis il y a aussi les reflux les reflux un peu gastriques qui peuvent aussi engendrer de l'asthme. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses sur les allergies au pollen, parce que c'est vrai que c'est le printemps là, donc on leur dit vraiment les bons gestes, et puis on a aussi un calendrier sur les saisons. Et puis c'est vrai que j'ai un petit tableau là où il y a des points d'interrogation pour savoir quels symptômes j'ai quand je suis allergique au pollen. Donc c'est vrai qu'il y a là, justement, il va y avoir la conjonctivite allergique, hein, il va y avoir donc les yeux rouges, la rhinite allergique, où on va avoir ce nez qui coule. Hein. Ensuite, on va avoir la crise d'asthme, hein. Et puis l'eczéma. Donc, c'est plus cutané. Donc voilà un peu tous les signes d'allergie.
Donc moi, je m'appelle Élise Raguin, je suis diététicienne ici dans cette structure à la Villa Santé. Je travaille ici depuis l'ouverture et donc aujourd'hui, je suis dans la cuisine pour vous parler un petit peu des différents ateliers sur l'alimentation que je peux proposer auprès du public. Je peux recevoir des patients atteints de maladies chroniques, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, mais je peux aussi recevoir des personnes qui n'ont pas de maladie et qui souhaitent prendre soin de leur alimentation, prendre soin d'eux pour mieux manger et prendre soin de leur santé. Donc là, je vous ai présenté plusieurs ateliers. Alors, il y a des ateliers assez spécifiques, par exemple, que je peux animer autour des glucides à destination des personnes diabétiques, hein, dans le but qu'ils apprennent à mieux gérer leur maladie et mieux gérer leur apport en glucides pour mieux adapter leur traitement. Et puis, des ateliers un peu plus généraux. Alors, notamment, il y a un atelier sur les croyances alimentaires liées au poids. Qu'on propose aux personnes qui sont dans une démarche de perte de poids, et ça leur permet de prendre conscience de leurs croyances et de voir aussi quel impact ont leurs croyances sur leur comportement. Là, c'est ici, ce sont les petites cartes croyances où vous avez un certain nombre de croyances sur l'alimentation et le poids. Par exemple, est-ce qu'il faut manger moins le soir, par exemple, par rapport au poids, et cette petite carte-là est débattue dans le groupe, et ça leur permet de voir si leurs croyances sont partagées ou pas avec le groupe, hein. Et puis, si elles ne le sont pas, bah pourquoi on n'a pas tous les mêmes croyances? Comment on peut la vérifier? Et puis, il y a des ateliers cuisine, bien sûr. On va aussi redonner le goût de cuisiner. Et puis, cuisiner aussi, montrer qu'on peut cuisiner tous les aliments. Tout est une question aussi de plaisir, de proportion. L'idée, c'est aussi de prendre plaisir à bien manger et à prendre soin de soi.
Donc oui, je suis Karen Messant, je suis infirmière ici à la Villa Santé. Je m'occupe du programme Un Poids en Moins qui s'adresse aux personnes adultes en surpoids obèses avec ou sans projet de chirurgie bariatrique. Et donc là, je présente un atelier sur la compréhension du poids où on discute déjà de définir qu'est-ce que le poids, l'obésité, comment ça se définit. Alors on parle de l'IMC, mais ça ne suffit pas pour définir l'obésité. Et puis, on parle aussi de quelles sont les causes du surpoids et de l'obésité, qui peuvent être multiples. Des conséquences sur la santé, mais sur la santé physique, sur la santé mentale aussi. Et puis après, on termine par les leviers sur quoi on peut agir pour essayer d'améliorer les choses. Donc souvent, les trois piliers sur lesquels on agit, ça va être l'alimentation, la santé mentale et l'activité physique. Après, il y a d'autres facteurs qui influent sur le poids, mais sur lesquels on n'a pas forcément la possibilité d'agir. Si c'est une cause qui est en lien avec un traitement, le but, c'est pas d'arrêter le traitement, parce qu'on en a besoin si on est malade, mais c'est comment on peut agir pour améliorer les choses. Et souvent, oui, les trois leviers, c'est l'alimentation, l'équilibre mental, le bien-être mental, et l'activité physique. On utilise des post-it, des fois les gens écrivent, on les fait participer, c'est pas une information descendante, hein, ça part de leur réflexion à eux, pour eux quelles sont les causes de l'obésité, pour eux quelles sont les conséquences. Alors il y a des personnes qui ont déjà des conséquences, donc ça va venir naturellement, et puis d'autres qu'on va peut-être aller chercher, puis il y a des personnes qui n'ont pas de conséquences physiques, donc ça peut être une possibilité aussi. Et puis on peut être amené aussi à discuter de l'histoire du poids, comment le poids a évolué en fonction de l'âge, et ça peut donner aussi des pistes sur les causes.
C'était La Vie, la Santé, une maison pas comme les autres, un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.